7 milliards de voisins, on est ensemble avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Salut les voisins, 7 milliards de voisins à l'heure d'été, cinquième épisode de notre série Vivre en ville. Après Montréal, la ville émancipée, Wuhan, la ville brûlante en Chine, Hambourg, la ville aux 2500 ponts, ou encore Caracas, la ville absurde au Venezuela. Nous voilà aujourd'hui, vivre dans une ville aseptisée, Erbil, au Kurdistan irakien, un territoire semi-autonome. Bonjour Oriane Verdier.
Bonjour.
Vous avez vécu près de 2 ans à Erbil comme correspondante pour RFI. Pourquoi ville aseptisée, vue de loin quand même, et vue la région aux portes des décombres de Daesh?
Justement, parce que c'est finalement une ville où il fait plutôt bon vivre par rapport à des villes voisines comme Mossoul. Donc déjà, il y a une certaine sécurité. Il y a aussi pas beaucoup d'espace pour la liberté d'expression. Donc ça fait que finalement, on a l'impression que tout se passe plutôt bien parce que personne ne se plaint vraiment. Alors qu'en réalité, il y a vraiment de gros problèmes auxquels il faut répondre. Et voilà, principalement aussi parce qu'il y a plusieurs communautés qui vivent toutes ensemble. On a l'impression que ça se passe très bien, mais il y a quand même toujours des difficultés pour vivre dans la diversité, comme ça arrive dans tous les pays finalement.
Alors il y a eu quand même récemment des élections, un référendum aussi avorté.
Oui, en 2017, il y a eu donc ce référendum à la sortie de la guerre contre Daesh. Un référendum qui apparemment a été... enfin, où il y a eu 96% officiellement en tout cas de oui à ce référendum. Donc les Kurdes ont dit oui à l'indépendance. On ne sait pas vraiment quelle était la véracité de ces résultats puisqu'il n'y a pas eu d'observateurs internationaux pour savoir si c'était régulier ou pas.
Et le référendum n'a pas été reconnu par la communauté internationale.
Voilà, exactement. Ouais. Ni par la communauté internationale, ni par les Irakiens qui ont ensuite repris une partie du territoire, la grosse ville pétrolière de Kirkuk. Et ça, ça a été un gros drame. Et
une grosse amputation pour le Kurdistan irakien. Et puis plus récemment aussi des élections quand même à Erbil.
Oui, exactement. Alors maintenant, on a changé de président. Le neveu de Massoud Barzani est devenu le président. Massour Barzani, lui, est devenu premier ministre. Donc on a changé. On reste toujours dans les Barzani, hein, toujours la même famille au pouvoir. Et donc on va voir quel va être l'avenir maintenant que l'État islamique, en tout cas, n'est plus aussi présent. Comment on va avancer avec aussi les relations avec l'Irak, avec Bagdad.
Et la Turquie. Alors Erbil, petite ville. Est-ce qu'on sait d'ailleurs combien de millions d'habitants?
Alors c'est à peu près 1 million d'habitants. Je crois que le nombre de personnes a un petit peu baissé depuis justement la fin de la guerre avec l'État islamique, puisqu'il y a certaines familles arabes qui étaient venues se réfugier à Erbil, qui sont rentrées petit à petit chez elles, mais on est à peu près dans les 1 million.
On va découvrir avec vous ce qu'il y a donc derrière cette façade aseptisée d'Erbil. Vous signez aussi le programme musical de l'émission, Oriane Verdier, et on démarre avec un tube.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
On n'est pas tout à fait encore à Erbil, Lauriane Verdi. On est aux portes d'Erbil, dans la campagne verdoyante du Kurdistan irakien. La chanson s'appelle...
Elle s'appelle Maro. Maro, ça veut dire « Ne t'en va pas », c'est une chanson d'amour finalement. Oui. Donc oui, en effet, dans le clip, on voit les deux, ces deux jeunes garçons qui sont avec leur 4x4 noir dans les montagnes du Kurdistan.
En plus, c'est filmé par un temps très brumeux, assez inquiétant en même temps.
Oui, et c'est finalement très à l'image de la campagne et des montagnes kurdes, dont les Kurdes, on peut le voir dans ce clip, sont très fiers aussi. C'est vraiment une des richesses du Kurdistan, ces montagnes, ces rivières, cette fraîcheur par rapport au reste de l'Irak. Quoi.
Alors la chanson, elle dit quoi exactement? Elle parle de pique-nique
Bah, la chanson en elle-même, c'est plutôt une histoire d'amour. C'est plutôt, il parle d'une femme aimée. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il la chante dans les deux dialectes, parce qu'en fait, donc le kurde, il y a plusieurs dialectes. Et là, en Irak, les principaux dialectes, c'est le sorani et le badini. Donc chacun chante dans son dialecte. Et oui, en effet, c'est vrai que quand même, ça rappelle beaucoup. Enfin, moi, quand je vois le clip, ça me rappelle quand même beaucoup des week-ends où on sort et très vite, quand on sort d'Erbil, on voit plein de gens, soit des familles, soit des amis, en train, en tout cas, c'est sûr, en train de pique-niquer avec un feu et une théière en train de bouillir sur le feu. Et puis peut-être parfois une chicha qui a été emmenée aussi dans le coffre de la voiture pour passer la journée tranquillement à discuter, entouré des gens qu'on aime. Ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, d'important dans la vie.
C'est ce que les touristes, entre guillemets, en l'occurrence des touristes irakiens, c'est ce qu'ils viennent chercher dans la campagne d'Erbil ?
Oui, il y a beaucoup de touristes irakiens qui viennent, donc, comme je disais, chercher la fraîcheur. Et puis aussi, oui, c'est très agréable de sortir d'Erbil. Il y a aussi beaucoup de touristes à l'intérieur d'Erbil, dans le centre d'Erbil, puisqu'il y a cette citadelle qui est très ancienne, qu'on peut visiter. Et puis, une belle place devant la citadelle qui est très fréquentée. Beaucoup de selfies, beaucoup de photos de jeunes femmes qui sont heureuses de se mettre devant cette place.
Citadelle construite il y a près de 6000 ans, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'attraction de la ville. Alors justement, on va pénétrer avec vous dans la ville, Lauriane Verdier, en franchissant les différents boulevards périphériques qui ceinturent la ville.
Oui, exactement. Donc en fait, il y avait à l'origine cette citadelle qui est vraiment sur une colline. Qui est assez petite, hein. Et puis donc au pied il y a petit à petit les quartiers les plus anciens qui se sont créés, donc il y a bien sûr un bazar magnifique, un bazar intérieur avec des arcades faites de pierre, etc.
C'est ça, j'ai le plan de la ville sous les yeux, c'est vraiment un cercle, des cercles concentrés comme un escargot un peu, hein.
Oui, c'est vraiment ça, ça a grandi petit à petit, et on voit au fur et à mesure d'ailleurs même l'architecture qui change avec finalement à l'extrémité de ce cercle, les bâtiments les plus récents, un peu des buildings. Et puis il y a juste une chose, tant qu'on parle de la géographie, c'est que finalement ce cercle a rejoint la ville d'Enkawa, qui est aujourd'hui le quartier chrétien d'Erbil en fait, qui était à l'origine une ville chrétienne et qui est aujourd'hui une part à part entière d'Erbil.
Alors les différents quartiers, comment sont-ils juxtaposés, organisés?
Alors je sais pas si c'est très organisé au centre, puisque en fait c'est ce qui est beau aussi dans ce qui est ancien, tout est un peu imbriqué les uns dans les autres. Il y a par exemple un vieux quartier juif qui est aujourd'hui presque complètement abandonné en fait, mais tout c'est vrai que quand on marche comme ça, on tombe dans différents petits quartiers historiques. Après, très rapidement, en fait, une fois qu'on passe le premier cercle qui entoure cette citadelle, c'est vrai qu'on va avoir des quartiers un peu plus avec des maisons un peu plus espacées. On va avoir parfois des malls.
Donc des centres commerciaux.
Voilà, exactement.
Et des quartiers plus résidentiels, plus modernes aussi.
Oui, avec des maisons un peu plus modernes. Et puis alors vraiment, après, on arrive parfois dans certains quartiers qui sont là vraiment des quartiers les plus riches. Mmh. Et donc, un, les plus modernes. Et deux, les plus isolés, finalement. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon ressenti du reste de la ville.
Alors, il y a des noms. Il y a English Village, Holland Village, German Village, me semble-t-il, Empire Village, ça correspond à des quartiers d'expatriés ou pas spécialement?
Oui, c'est ça, c'est des quartiers, et en fait, c'est aussi des projets de construction. Parce qu'en fait, finalement, ces quartiers sont pas... Enfin, si c'est grand, mais je veux dire, ils sont tous au même endroit, donc on a l'impression que c'est une même zone. Et donc après, à chaque fois, soit il y a des immeubles avec des appartements, soit il y a ces villages, donc qui sont entourés de murs, avec avec des postes de sécurité aux quatre coins pour pouvoir y rentrer. Et après, c'est des grandes, grandes maisons vraiment immenses, dans un luxe un peu trop...
Il faut le dire, Erbil, c'est un peu rêvé en mode Dubaï, non ? A eu un moment des rêves de grandeur et d'urbanisme démesuré.
Oui, c'était un rêve avéré et assumé. Il y avait vraiment cette envie-là, juste avant l'arrivée de l'organisation État islamique, peut-être entre 2010 et 2014, il y a vraiment eu un boom où
on a construit à tout va.
On a construit, l'argent allait bien, il y avait du pétrole, donc on s'est dit, bon, on y va, on va devenir peut-être une référence finalement.
Et alors, avec l'arrivée de Daesh, tout s'effondre, du coup, enfin, aux portes du Kurdistan irakien, mais tout s'effondre, ça veut dire que les programmes, on est encore sur des chantiers non terminés aujourd'hui ?
Oui, il y a des buildings qui sont restés comme ça, non terminés, aussi bien officiellement à cause de l'arrivée de l'organisation État islamique, qui a quand même coûté très cher, parce que c'est vrai qu'il fallait, finalement, il fallait entrer dans une économie de guerre, etc. Mais aussi, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de corruption. Donc, c'est un peu des deux, en fait. On a un peu du mal à savoir où ça a commencé. Mais oui, en effet, après, ça s'est tout arrêté. Et c'est vrai que c'est assez étonnant quand on marche, on roule plutôt, parce qu'on marche très peu à Erbil. Quand on roule dans la ville d'Erbil, il y a parfois des bâtiments un peu fantômes, en fait.
Alors, vous nous parliez de l'État islamique. Il faut bien expliquer à nos auditeurs. L'État islamique Daesh n'a jamais pénétré à Erbil, ni sur ses territoires autour. Hein. La ville est aseptisée parce que justement elle a été isolée de la violence de la guerre.
Oui, c'est ça. En fait, l'organisation État islamique est arrivée donc à Mossoul, à Kirkouk, et après,
donc,
en fait,
à combien de kilomètres finalement d'Erbil
Je sais pas. À un moment donné, ils étaient vraiment aux portes d'Erbil. Hein. Ils étaient à peut-être 20 minutes en voiture, quoi.
Erbil, isolée de la violence de la guerre, qui était toute proche. On l'écoute.
Notre maison a été visée par un avion. Vous voyez, à côté, c'est mon cousin. Il est resté sous les décombres pendant 5 jours, sans boire ni manger. Finalement, mon oncle l'a trouvé et l'a amené ici. Les frappes aériennes, ce jour-là, ont détruit 6 maisons au total. Des djihadistes sont venus sur notre toit pour combattre l'armée irakienne. On leur a dit que nous avions des enfants, que les avions allaient nous viser. Mais ils s'en fichaient. Une heure plus tard, l'avion a bombardé notre maison. Aucun des deux camps n'a eu pitié de nous. 15 personnes de ma famille sont mortes ou disparues. Comment est-ce que je peux tolérer ça ? Mon cœur est brisé, mes parents sont morts, mes frères, mes sœurs tués par ces avions.
Qui vient-on d'entendre, Oriane Verdier ?
Alors, c'est Omar, c'est un jeune adolescent que j'ai rencontré à l'hôpital d'Erbil, mais qui est en fait de Mossoul. Il venait juste d'être sorti de Mossoul. Et ça, c'est vraiment ces rencontres-là, parce qu'il n'était pas seul, il y avait donc d'autres membres de sa famille à côté. Et on voit là l'horreur. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a même pas besoin d'aller à Mossoul. Je veux dire, si on reste à Erbil et qu'on rencontre ces personnes-là, on se rend compte à quel point il y avait une violence extrême pendant plusieurs années, qui a duré longtemps, juste à côté. Donc, et en fait, Erbil était vraiment protégé aussi parce que il y avait quand même la coalition internationale qui était basée en partie à Erbil, et donc il était important aussi bien militairement, mais aussi pour les intérêts économiques de la communauté internationale, donc avec les entreprises pétrolières, de ne pas laisser Erbil être prise. Donc, en fait, finalement, il y avait quand même vraiment cette sécurité où moi personnellement, j'étais pas du tout stressée en marchant dans les rues d'Erbil, quoi.
C'est ça, Erbil était et est toujours une ville sûre en termes de sécurité.
Oui, après, voilà, il ne faut pas, peut-être, en tant que femme, ne pas prendre un taxi à 2h du mat, sans que ce soit un taxi identifié, quoi. Mais bon, ça, ce n'est pas non plus l'extrême dangerosité, quoi. Hein. C'est des conditions de sécurité assez normales quand on voyage dans un pays qu'on ne connaît pas vraiment. Hein.
Alors, vous nous parliez des réfugiés. La sécurité, certes, ça ne règle pas la question des réfugiés dans les camps qui sont aux portes d'Erbil.
Quand nous sommes arrivés, nous ne savions pas que nous allions rester. Nous pensions qu'après un an, nous allions pouvoir rentrer en Syrie. Mais maintenant, la situation a empiré. Il n'y a pas de futur pour les enfants. Aucun futur. Les études ici ne sont pas aussi réputées qu'en Syrie. Seulement la moitié des gens du camp peuvent trouver un travail ici. Et quand ils en trouvent, ce n'est pas à plein temps. Donc la majorité des familles décident de quitter le Kurdistan et de partir pour l'Europe. Le voyage est difficile, les familles ont des problèmes, mais elles y arrivent.
Erbil est encore aujourd'hui une ville entourée de camps de réfugiés venus de Syrie, de la région de Mossoul, réfugiés irakiens donc également.
Oui, exactement, des réfugiés irakiens et des réfugiés kurdes syriens majoritairement. Oui, il y a encore beaucoup de réfugiés, parce qu'en fait, finalement, bon, bah, de toute façon, en Syrie, pour l'instant, il est quand même compliqué dans beaucoup d'endroits de rentrer, surtout pour des Kurdes syriens. Mais même au niveau des populations arabes sunnites en majorité qui se sont réfugiés dans les alentours d'Erbil ou dans la région du Kurdistan irakien, certains endroits, on peut toujours pas soit y vivre de manière concrète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de maison, ni d'eau, ni d'électricité. Mais il y a aussi un niveau de sécurité qui est quand même assez complexe, avec des milices chiites qui sont en place, qui peuvent quand même plutôt effrayer les communautés arabes sunnites dans leur volonté de rentrer. Donc oui, le Kurdistan irakien a été un vrai refuge pour beaucoup, beaucoup de populations.
Ces camps, ils sont où par rapport à Erbil et est-ce qu'ils sont vraiment coupés de la ville ?
Alors celui qui était le moins coupé, mais qui je crois a été vidé depuis, c'était un camp chrétien qui était vraiment dans Enkawa en fait.
Donc là, le quartier chrétien.
Voilà, donc eux ils étaient vraiment intégrés dans la ville. Après sinon il faut quand même faire à peu près 40 minutes de voiture si ce n'est plus pour arriver. Et en fait oui, ils sont vraiment au milieu de nulle part. En fait.
Est-ce que les réfugiés peuvent sortir des camps pour aller chercher des petits boulots à Erbil ?
Oui, ils peuvent sortir des camps. Mais bon, voilà, il faut avoir au moins une mobylette ou il faut avoir quelque chose pour pouvoir se déplacer. Et après, généralement, ce qu'ils trouvent comme travail, c'est beaucoup de main-d'œuvre, de petits boulots par-ci par-là, quoi. Ouais.
Alors, vous nous parliez de cette ville aseptisée, Erbil, avec des quartiers. Ça veut dire qu'on se trouve à se loger assez facilement à Erbil ?
Oui, on trouve à se loger assez facilement en respectant les consignes un peu non dites de la société. C'est-à-dire que, par exemple, que ce soit une femme ou un homme, hein, on ne peut pas vivre seul à Erbil. Moi, j'ai un ami kurde qui habitait seul, qui n'est pas marié. Et rapidement, il a été obligé de quitter son appartement parce que les voisins se sont plaints.
Y compris pour un homme.
Voilà,
donc,
y compris pour un homme, oui. Parce qu'en fait, soit on est dans sa famille, soit on est marié. On ne peut pas être entre les deux. Et donc, même dans le quartier chrétien, c'est un peu plus facile, mais c'est quand même assez difficile aussi. Donc nous, en tant qu'expat, on est souvent dans des colocs, en fait, dans ce quartier chrétien qui accepte qu'il y ait des colocations d'étrangers.
Vous êtes épargné par les coupures d'électricité fréquentes ou pas ?
Non, on n'est pas épargné par les coupures d'électricité. Mais par contre, on a la chance de pouvoir se payer un générateur, ce qui est quand même assez général dans la ville d'Erbil, mais c'est vrai que dans les quartiers les moins riches, en fait, parfois il n'y a pas de. Ou dans la campagne, parfois il n'y a pas de générateur. Donc en effet, on peut parfois n'avoir que 3-4 heures d'électricité.
Et ça veut dire quoi concrètement ? Parce qu'on est dans une ville qui est très froide l'hiver, très chaude l'été ?
Oui, enfin après, moi c'est vrai que je suis un peu frileuse, quoi. Il fait aussi froid qu'à Paris, on va dire, ou peut-être un petit peu moins, mais oui, moi j'ai eu vraiment très très froid l'hiver.
Parce que pas de chauffage.
Il n'y a pas de chauffage en fait, parce que le chauffage normalement, c'est la climatisation réversible, donc ça marche avec l'électricité et le générateur n'a pas assez de puissance pour faire marcher ça. Et donc on est moi j'ai des photos de moi sous des amoncellements de couverture assez importants.
Kurdistan'ım.
Oriane Verdier. Vivre dans une ville aseptisée, on est à Erbil avec vous. Vous avez vécu près de 2 ans dans le Kurdistan irakien, territoire semi-autonome. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? C'est une très belle chanson et très nationaliste.
Oui, c'est une chanson... en fait, le titre, c'est « Kurdes nous étions et Kurdes nous resterons ». Et donc, c'est une chanson qui raconte que voilà, ils sont Kurdes avant tout, ils sont Kurdes avant d'être musulmans. Ils ont été... ils ont vécu, cohabité avec différents régimes avant d'avoir leur semi... leur état semi-autonome maintenant. C'est un sentiment de kurde, d'être kurde, que moi j'ai vraiment ressenti chez tout le monde, peu importe l'orientation politique, peu importe la richesse, le niveau de vie, etc. Moi j'ai vraiment senti ça, et je trouve ça assez intéressant de garder cette racine en soi, même chez les jeunes, de sentir de la fierté de ce
et
qu'on est.
Il faut bien le réexpliquer à nos auditeurs, des Kurdes on en trouve en Iran, on en trouve en Turquie, on en trouve en Irak, on en trouve en Syrie, et là on est dans le territoire le plus autonome possible pour les Kurdes.
Oui, c'est vraiment ceux qui sont arrivés pour l'instant à avoir le plus à s'approcher le plus de l'indépendance. On parlait de ce référendum tout à l'heure. Ça a été vraiment un nouveau moment où une certaine partie du peuple kurde a pensé qu'ils allaient aller un peu plus loin. Et c'était assez intéressant parce que
vis-à-vis de Bagdad. Hein.
Voilà, vis-à-vis de Bagdad. Et c'était assez intéressant parce qu'en fait, il y avait toujours, il y a beaucoup de gens qui disaient, enfin en tout cas une partie des personnes qui disaient moi j'aimerais, oui, être indépendant, j'aimerais un Kurdistan indépendant, mais pas avec la famille Barzani, pas avec le gouvernement corrompu actuel. Mais finalement, oui, bien sûr, si on me le demande, je rêve quand même d'un Kurdistan, quoi.
Alors forcément, il faut parler politique à Erbil. Témoignage d'un vendeur de drapeaux.
Je m'appelle Lokman, je soutiens la cause kurde et je me sacrifierai pour le drapeau du Kurdistan. Nous ne voulons plus vivre entre les mains des Arabes. Nous sommes kurdes et sommes fiers de notre pays. Bien sûr, tous les Arabes ne sont pas mauvais, ils ont tout mon respect. Mais les chiites, dans leur majorité, ils ne respecteront jamais les Kurdes.
Sentiment répondu.
Oui, sentiment répandu. Après, avec un discours plus ou moins vindicatif, celui-ci est quand même assez vindicatif. Hein, lui, donc, quand je l'ai interviewé, il était avec donc son chariot qui débordait d'accessoires aux couleurs du Kurdistan irakien. Donc lui, voilà, il avait cette position-là. Après, il y a quand même quelque chose aussi, c'est qu'il faut pas non plus penser que tous les Kurdes sont extrêmement racistes contre les Arabes et contre les Arabes chiites, parce que finalement, les Kurdes vivent quand même avec les Arabes.
Ouais, il y a plein de commerçants iraniens qui travaillent à Erbil.
Oui, il y a des commerçants iraniens, il y a des commerçants irakiens, il y a des Turcs. Finalement, les gens vivent quand même ensemble. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, pour les auditeurs qui l'ignorent peut-être, si c'est encore possible de l'oublier, c'est qu'en fait, il y a quand même eu, au temps de Saddam Hussein, une répression extrêmement violente, systématique, avec notamment Al-Abja, qui était donc un bombardement à l'arme chimique.
Le sentiment national, la fierté de l'identité kurde aujourd'hui, est-ce que c'est un socle pour maintenir ce que vous appelez la ville aseptisée au sens politique du terme ?
Oui, de mon point de vue, en effet, finalement, c'est un peu ce qui s'est passé aussi pendant le référendum. C'est que, en fait, pendant un certain temps, entre 2014 et 2017, il y avait la lutte contre le grand mal, c'est-à-dire l'État islamique. Donc les Kurdes, finalement, toutes les divisions internes politiques étaient à peu près mises de côté. Une fois que l'État islamique s'est terminé, il fallait trouver une nouvelle chose. De mon point de vue, cette organisation du référendum, c'était une manière pour la famille Barzani de continuer à garder un peuple derrière lui et de continuer à être le peuple de la patrie. Oui, c'est totalement utilisé aussi pour que les autorités au pouvoir restent au pouvoir, quoi.
Politiquement, vous nous le disiez, c'est vraiment une famille qui règne sur la ville, hein, avec le nouveau président qui est toujours un Barzani, et sur le Kurdistan irakien. Le bilan aujourd'hui de cette gouvernance-là à Erbil, c'est quoi ?
Alors, je vais être honnête, là, je vous parle en tant qu'invité et non pas en tant que journaliste. Moi, je trouve qu'il y a énormément de corruption et qu'il y a énormément d'injustice et surtout de violence.
C'est dénoncé aussi par les experts internationaux,
oui,
la corruption.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a énormément de violence. Les gens ont vraiment peur de parler à Erbil. Par exemple, je reviens au moment du référendum. J'avais un ami qui a un magasin, voilà, tout simplement, et d'articles de sport. Et en fait, sur la place, tout le monde avait mis le drapeau kurde et lui ne l'avait pas mis. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'a pas dit, il a pas insulté, il n'a rien fait. Il n'a juste pas mis ce drapeau kurde. Les forces de sécurité sont entrées dans son magasin et lui ont dit, si tu ne mets pas maintenant le drapeau kurde, ton magasin sera fermé demain. Donc là, on est quand même dans un mouvement où en fait, on contrôle les gens comme ça aussi. Et finalement, assez rapidement, dès que quelqu'un ose critiquer, eh ben, il en va de la critique du rêve d'indépendance kurde et du peuple kurde tout en entier. Alors que...
Concrètement, alors on peut manifester à Erbil ou c'est même pas pensable?
Alors j'ai vu quelques manifestations. Honnêtement, c'est très très peu de manifestations par rapport... Parce qu'il y a quand même énormément de manifestations depuis... je crois que les premières ont commencé avec le printemps arabe, en tout cas de la période contemporaine. Et donc c'est des manifestations qui sont récurrentes puisque en fait elles critiquent des choses qui restent en place, de la corruption, le manque d'électricité, etc.
Le chômage
et puis la répression intense des autorités. Et donc il y a de fortes manifestations dans d'autres parties du Kurdistan irakien, notamment celle qui est moins sous l'autorité du PDK, donc de la famille Barzani, et plus sous l'autorité du parti UPK, qui est l'autre qui est dirigé par la famille Talabani, donc l'autre grosse famille au pouvoir. Et généralement Erbil. Moi, une fois, j'avais pas le temps, en fait, ou je sais plus pourquoi, je pouvais pas aller à Souleymanie. Donc, on s'est dit avec mon traducteur qu'on allait rester à Erbil pour couvrir les manifestations depuis Erbil. Pourquoi finalement toujours aller dans d'autres villes? Et en fait, il ne s'est rien passé. Deux, nous avons vu des journalistes d'une télévision qui n'est pas une télévision étatique se faire tabasser parce qu'ils étaient en train de faire un direct en disant qu'il n'y avait personne. Donc là, on n'est pas non plus, encore une fois, en train d'insulter le pouvoir en place. Simplement un simple exercice dans l'espace public de journalisme comme ça, de journalistes qui ne sont pas reconnus comme affiliés au parti du PDK, et ben ça c'est un problème en plein milieu d'Erbil.
On est bien dans la ville aseptisée, mais au milieu du chaos aussi. Il faut le rappeler, non pas pour excuser, mais pour expliquer, mieux comprendre. On écoute le témoignage d'un journaliste kurde qui veut garder l'anonymat.
Lorsque nous avons créé le magazine Bachour, ça a été une surprise pour tout le monde. C'était le premier magazine politique aussi libre et critique. Les autorités ont mis un certain temps à identifier qui dirigeait le journal. Mais petit à petit, les difficultés ont commencé. À chaque publication, ils saisissaient tous les journaux et les brûlaient. Nous recevions des menaces. Au bout d'un certain temps, ils ont arrêté le rédacteur en chef. Il a été relâché après 6 jours de détention. Grâce à la pression médiatique. Dans cette région, pour devenir journaliste indépendant, il faut d'abord faire ses prières. Il faut être conscient dès le début que tout peut arriver, se préparer mentalement. Les journalistes ici sont persuadés que personne ne peut les aider. Même les consulats ne peuvent pas nous protéger. Nous savons bien qu'aucun consul ne fera passer la vie d'un journaliste kurde avant l'intérêt de son pays. Ils peuvent toujours écrire des rapports, mais dans la pratique, personne ne peut prendre notre défense.
Vous nous le disiez, Oriane Verdier, une ville aseptisée d'opinions divergentes.
Oui, et en fait, moi je trouve que ce son l'exprime assez bien. C'est assez intéressant parce qu'on arrive quand même petit à petit à parler aux gens, mais c'est des gens, qui ont un gros courage. Parce qu'il en faut du courage pour arriver à parler comme ça. Parce qu'il y a aussi il y a des forces de renseignement qui sont un peu partout dans la ville. Et en fait, en réalité, on sait que c'est pas parce qu'on est à l'intérieur d'un magasin ou d'une maison.
C'est ce que j'allais dire. Au café, par exemple, on ne parle pas facilement politique, on ne livre pas son opinion facilement au café.
Je pense que quand on est avec des gens qu'on connaît, si. Mais ça dépend aussi quel type d'opinion. On peut faire certaines choses, on ne peut pas faire d'autres choses.
Et chacun connaît cette frontière invisible ?
Oui, chacun connaît cette frontière invisible et chacun décide de l'enfreindre ou non. Et donc, en fait, certaines personnes ont décidé de vivre comme ça, et tant pis. Et moi, je dis ce que je pense. Mais beaucoup de personnes, et surtout quand on a un micro à la main, finalement, nous disent facilement que tout va bien et que Barzani est le père de la patrie et qu'il a tout offert au peuple kurde.
Alors, les Occidentaux aiment tout particulièrement le Kurdistan, alors bien sûr pour des raisons géopolitiques, pour le pétrole, mais aussi pour la cause des femmes au Kurdistan irakien, et en particulier à Erbil. On va évoquer ces femmes, hein. Quelle est la réalité de la condition des femmes à Erbil? Mais tout de suite, on va écouter la bande-son d'un clip qui est ultra théâtralisé. Faut que vous alliez voir les voisins, si vous nous écoutez, vous allez taper Heli Luv Révolution, Heli H-E-2-L-Y Luv L-U-V, le titre c'est Révolution. On voit la guerre, les chars, les réfugiés sur les routes, et puis au milieu il y a une bombe sexuelle en treillis, avec des recharges de munitions en bandoulière sur la poitrine, et on l'appelle la Shakira kurde.
De voisins, c'est sur RFI.
Révolution. Alors, qui est cette Shakira kurde, Oriane Verdier?
Alors, donc, c'est une jeune femme kurde qui fait partie, en fait, de la diaspora kurde, qui a grandi en Finlande et qui est revenue dans l'actualité kurde, en tout cas dans les oreilles des Kurdes, avec ses chansons, donc beaucoup, très souvent en anglais. Et celle-ci, en effet, est assez intéressante parce que elle surgit avec sa chevelure rouge de la violence, finalement, et elle appelle à l'union, et c'est aussi un autre gros message politique kurde, c'est-à-dire que nous recevons tout le monde, toutes les minorités, et moi, femme, je suis libre. Donc elle porte le charwal, qui est le pantalon qui est porté par une grande majorité d'hommes au Kurdistan, que moi j'ai très vu, je l'ai vu peut-être une fois porté par une femme à la campagne qui était en train de faire du travail dans les champs, mais qui est très, aujourd'hui très peu porté par les femmes au Kurdistan irakien.
Mais alors finalement, c'est un mirage, les femmes kurdes, la liberté dont elles jouissent, leur place dans la société, par rapport au reste de la région, parce que les Occidentaux fantasment beaucoup là-dessus.
Oui, alors je pense que ça vient principalement déjà des images qu'on voit en France ou à l'étranger des femmes du PKK, donc qui est le parti des travailleurs kurdes, donc un parti kurde de Turquie, qui ont aussi leur branche en Syrie et qui sont en fait en train, enfin qui ont combattu contre l'organisation État islamique en Syrie. Et donc ces femmes-là, en effet, elles, après c'est une autre question leur identité à elles en entier, mais ce qu'on va dire, c'est que oui, en effet, c'est des femmes combattantes, elles font partie de l'effort de guerre et elles ne sont pas du tout à la maison. Après, ce qui se passe à Erbil, moi, les seules fois où j'ai vu des femmes Peshmerga, c'était quand il y avait des projections de documentaires sur les Peshmerga, qu'il y avait des gens importants qui étaient invités, notamment des étrangers, de la diplomatie étrangère, et qu'il fallait sortir les jeunes femmes bien maquillées et habillées en militaire. Mais par contre, dans la
vie dans les médias occidentaux, on les a vus partout, on les a vus dans les magazines féminins, elles ont, alors d'où elles sortent ces femmes Peshmerga? Elles existent, elles n'existent pas, elles sont très peu nombreuses.
En fait, elles existent en Syrie, mais c'est pas la même force, c'est pas le même parti.
Pas au Kurdistan irakien.
Et pas au Kurdistan irakien, quoi. Donc après, au Kurdistan irakien, moi, ce que je trouve assez intéressant quand même dans le rôle de la femme, c'est que c'est beaucoup plus flou, en fait. Alors déjà, dans la condition d'une jeune fille qui habite à Erbil, une fois, j'ai discuté avec une étudiante de français à l'université de France qui me demandait comment je vivais le fait d'être français, d'être femme à Erbil. Et donc, bon, moi, je lui ai répondu. Elle m'a partagé son expérience. Et elle me disait que c'est vrai que elle, quand elle allait... Donc, elle qui est habillée en jean et t-shirt
à l'université à Erbil.
Voilà, à l'intérieur de l'université, les femmes sont habillées de manière très variée. Il y a certaines qui sont voilées, d'autres qui ne sont pas voilées, etc.
Comme partout dans le monde arabe.
Voilà. Et donc, cette jeune fille qui est en jean et en t-shirt me dit, mais moi, en effet, quand je vais au bazar, donc au pied de la citadelle, eh bien, je me voile, je mets une longue robe et je sens une espèce de menace permanente. Donc je vais aussi toujours au bazar avec ma mère, je n'y vais jamais seule. Et donc, en fait, il y a vraiment...
Menace de quoi ?
Une menace d'être mal vue par les hommes, d'être... voilà, en fait, parce que c'est vrai, quand on marche dans la rue en tant que femme, en fait, il y a des regards, beaucoup de regards assez violents. Et donc voilà, ça c'est assez lourd, je pense, pour les femmes à Erbil. Mais par contre, il y a aussi des femmes.
Donc les femmes à Erbil, finalement, cette pression qui s'exerce sur les femmes en tant qu'objet sexuel, c'est pas tellement différent de d'autres villes. On va pas dire de toutes les villes, mais d'autres villes dans le monde arabe.
Non, je pense que c'est pas tellement différent. Après, je ne suis pas la meilleure placée. Enfin, je veux dire, j'ai habité 2 ans et demi à Erbil, je n'ai pas habité à Bagdad. Donc, je veux pas faire de comparaison entre les populations arabes et les populations kurdes, qui est le plus ouvert que l'autre. Pour ce qui est des Kurdes, moi, ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que finalement, j'ai quand même vu et rencontré beaucoup de femmes qui ont un certain caractère, qui font partie de la vie dans la société. Je pense notamment à une jeune femme qui fait partie d'un parti politique qui s'appelle l'Union islamique. Et en fait, cette femme, donc elle est en effet voilée de manière, donc il n'y a aucune mèche de cheveux qui dépasse de son voile. Elle est, voilà, on voit pas ses poignets, on voit pas ses chevilles. Mais par contre, de un, quand elle s'exprime dans les médias, elle est d'un charisme fort. Et de deux, quand moi je la vois à la maison, c'est pas du tout une femme soumise. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, en Occident, on a besoin finalement de se dire que la force qu'on soutient, ou en tout cas les partis politiques qu'on soutient, sont un, laïcs. Les Kurdes ne sont pas laïcs, et la religion, en plus, est d'une certaine manière aussi utilisée pour contrôler la population. Donc, voilà. C'est pas parce qu'on n'est pas laïcs qu'on n'est pas forcément à valoriser aux yeux des Occidentaux, quoi. Donc déjà, il faut qu'ils soient laïcs, et en plus, qu'ils donnent des pouvoirs aux femmes, et d'une certaine manière, parce qu'une femme voilée qui a du pouvoir, finalement, ça ne plaît pas beaucoup aux Français non plus, quoi.
Ça veut dire que les femmes vraiment émancipées ne sont pas forcément celles que les Occidentaux rêveraient. Est-ce qu'elles travaillent ?
Oui, beaucoup de femmes travaillent, surtout à Erbil, surtout dans les villes en fait. Parce que c'est vrai que dans les champs, les femmes parfois soit font beaucoup de travail à la maison, qui est quand même un travail important.
Non, mais là j'entendais travail avec des revenus.
Oui, exactement. Donc à Erbil, il y a beaucoup de profs, même chez les femmes, il y a beaucoup de femmes professeurs, mais même par exemple dans les, quand on va dans les administrations, etc., il y a beaucoup de femmes aussi. Quoi, hein.
Alors parlons-en des administrations, j'allais vous poser la question. De quoi on vit à Erbil? C'est une ville de fonctionnaires plutôt?
Oui, il y a beaucoup de fonctionnaires, il y a donc beaucoup de professeurs. Et puis c'est vrai que, en fait, il y a aussi un problème dans l'économie, c'est qu'il y a aussi des fonctionnaires qui ont finalement des emplois fictifs ou des doubles emplois. C'est un peu une manière aussi, pareil, de garder le pouvoir sur certaines personnes. Je te donne un emploi et toi, tu me donnes quelque chose d'autre en échange. Donc il y a beaucoup de fonctionnaires. Après, il y a une économie du pétrole, puisqu'il y a beaucoup de pétrole, donc de gens qui travaillent avec... avec les entreprises étrangères ou avec les ONG aussi dans la traduction. Et puis après, il y a plein de petites échoppes. Il y a beaucoup de garagistes parce qu'il y a beaucoup de voitures et c'est très important la voiture pour les Kurdes. Il faut avoir toujours une très très belle voiture, pas de voiture rayée. Moi, j'ai un ami qui est venu en France qui est étonné de voir combien les voitures en France restent abîmées et c'est pas grave quoi.
Il faut quand même préciser à propos des fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis un an et demi, donc bienvenue aussi dans le monde de la débrouille puisque les caisses de l'État sont quand même en partie vides. Oriane Verdier, évidemment tout le monde a reconnu l'appel à la prière du Mouezzin. Comment cohabitent les religions, les communautés à Erbil?
Alors à Erbil, c'est plutôt c'est tranquille, mais en même temps c'est vrai que finalement les gens ne se croisent pas beaucoup. Donc les chrétiens vivent en majorité dans Enkawa, qui est à l'extérieur, enfin à l'extrémité d'Erbil. Chacun mène son rite calmement, et ça pour le coup c'est vraiment, moi j'ai jamais vraiment ressenti d'animosité physique, mais c'est vrai que par contre après moi en tout cas pour avoir vécu beaucoup à Enkawa, j'ai beaucoup entendu de chrétiens qui se confient à moi comme ils m'ont moi identifié en tant que chrétienne puisque je suis européenne, et donc me dire que voilà, les musulmans sont des barbares, que nous en France on sait pas les gérer. Donc il y a quand même finalement, mais c'est normal dans un pays où il y a eu autant de guerres et autant d'utilisation des communautés les unes contre les autres qu'il y a ça.
Au mieux une défiance. Donc les minorités sont représentées au niveau du gouvernement?
Oui, elles sont représentées.
Tout comme les femmes d'ailleurs, hein. Il y a des femmes dans les instances politiques.
Ouais, ils sont...
Sur le papier, tout va bien.
Sur le papier, tout va bien. Après, de toute façon, c'est comme dans tout, dans toute vie politique. Il y a des gens qui sont contents de ce qu'ils ont, d'autres qui voudraient avoir mieux, qui voudraient être plus représentés. Mais en effet, en tout cas, ils sont représentés, oui.
Verdier. Oriane Verdier, on est dans les méandres de la vie à Erbil, la ville aseptisée, comme vous l'avez surnommée, parce qu'effectivement, l'envers du décor n'est pas tout à fait similaire à ce que l'on voit sur la façade. On vient d'entendre une chanson en français, c'est « Les deux cœurs ».
Oui, c'est un vieux poème kurde qui a été remis au goût du jour par cette chanteuse Kani, sur une mélodie aux influences persanes. Et c'est assez intéressant ça aussi, parce que dans la culture, il y a aussi beaucoup d'influences perses finalement. Et là, on parle d'amour, on parle d'une femme qui ne sait pas, un cœur sur son épaule lui dit d'aller vers l'amour, l'autre lui dit de faire attention. Et je trouve ça assez beau aussi, tout ce romantisme, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de romantisme dans les chansons, dans les poèmes kurdes, très présent, alors que finalement, dans la vie, dans les rues, on ne les voit pas forcément se rencontrer, les hommes et les femmes en tout cas.
Justement, j'allais vous poser la question, comment les jeunes, les garçons, les filles peuvent se rencontrer sur les campus des universités, mais ailleurs?
Oui, exactement, c'est beaucoup dans les campus. C'est vrai que quand on va marcher dans les parcs, parfois on voit des couples, mais c'est assez compliqué parce que en fait ça dépend un peu de chacun, ça dépend un peu de la famille de chacun, mais c'est vrai que c'est très difficile. Après, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ouais, c'est quand même beaucoup plus facile d'échanger et de pouvoir faire connaissance un peu sans être tout de suite dans le mariage, quoi.
Ouais. Alors pour passer le temps, chacun entre hommes, entre femmes, les hommes, ça passe par les dominos. On n'a pas parlé des parties de dominos.
Oui, exactement. Donc, en fait, souvent, à la nuit tombée, on voit beaucoup de groupes d'hommes qui sont soit sur des terrasses, soit à l'intérieur de salons de thé, avec leurs dominos. C'est vraiment des parties endiablées. Ça se joue par équipe. Donc, généralement, ils sont quatre autour de la table, et donc par équipe de deux. Il faut jouer vite, il faut réfléchir vite, il faut compter. Il y a toute une histoire de calcul. Et donc, à chaque fois qu'on pose un domino sur la table, on claque le domino sur la table. Donc, en fait, quand on entre dans ces salons de thé, ça fait un boucan énorme. Et puis alors, ils sont vraiment, moi j'ai des amis qui peuvent passer des heures et des heures à boire du thé et à jouer au domino, à parfois se chamailler parce qu'il y en a un qui triche ou qui parle à son coéquipier, etc. Et je trouve ça vraiment moi j'ai d'ailleurs appris à jouer au domino et j'aime beaucoup. Mes amis trouvent que je joue pas très bien, mais...
Vous avez vécu près de 2 ans et demi à Erbil, oui, Oriane Verdier. Qu'est-ce qui vous manque parfois de cette ville? Une odeur, des voix, quelque chose?
Alors au niveau des sentiments, je pense que c'est vraiment le sentiment de famille, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans une famille, on est accepté dans cette famille et on nous chouchoute un peu, et ça je trouve que c'est assez magique, cette solidarité qu'il y a. Et puis peut-être s'il y a un moment qui est finalement aussi bien de l'odorat que du son, c'est la rupture du ramadan chaque soir. Moi je trouve ça magique. Donc déjà il y a cet appel à la prière que moi je trouve... vraiment très beau. Et puis en plus il y a toutes ces lumières, tous ces gens qui se dépêchent de faire leurs courses pour aller chez eux, pour aller manger, le thé qui chauffe, et tout le monde qui va vivre un moment vraiment de communion, et ça je trouve ça vraiment fort, quoi.
Et il faut préciser que vous avez appris le kurde.
Oui. Le sorani, oui.
Ouais. C'est difficile.
C'est beaucoup plus facile que l'arabe, en fait, parce que c'est une langue indo-européenne. Et donc, il y a beaucoup moins de sons qui sont étrangers à notre oreille et à notre langue. C'est finalement pas si compliqué que ça. Et puis, de toute façon, on parle kurde partout. On ne parle très peu arabe. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile pour arriver à parler et à pratiquer, quoi.
C'est bien le kurde qui est enseigné à l'école à Erbil. Peut-être juste en quelques secondes, un plat, un mets que vous aimez tout particulièrement à Erbil, déguster quand vous arrivez?
Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être le dolma, allez. Le dolma, c'est des, comme dans beaucoup d'autres pays, on peut le trouver, des légumes avec du riz et de la viande à l'intérieur.
Merci Oriane Verdier de nous avoir permis d'entrer sur la pointe des pieds à Erbil avec modestie par la petite porte de la vie quotidienne. Merci d'être passée dans le studio.
Merci à vous.
À la préparation de cette émission, Cécile Lavologe, Sophie Jeannin, Romain Dubrac, Romain Arnaud qui achève son stage aujourd'hui et que l'on remercie chaleureusement. Alors on reste dans le monde des villes, je voudrais vous faire un petit rappel, mais côté Afrique, 4e édition de RFI Challenge App Afrique qui porte sur la ville intelligente et connectée. N'oubliez pas de candidater pour ce concours, plusieurs milliers d'euros à la clé pour cette compétition qui s'adresse aux jeunes entrepreneurs très digitalisés. Si vous avez un projet d'application innovante qui peut améliorer la vie urbaine dans les villes africaines, ça peut être les transports, les déchets, l'énergie, vous allez surtout dès maintenant, parce qu'il reste quelques semaines pour candidater, vous allez sur le site internet appafrique.rfi.fr. Lundi, 7 milliards de voisins, suite de notre série d'été, vivre dans une ville harassante, Bombay, en Inde, près de 22 millions d'habitants. D'ici là, très bon week-end les voisins.